Europe 1, en balade avec Isabelle Carré, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec la comédienne Isabelle Carré que nous partons en balade aujourd'hui. 80 films à son actif, 30 pièces de théâtre, un César, deux Molières et un best-seller, Les Rêveurs, qu'elle a publié l'année dernière et qui vient de sortir en poche. Isabelle Carré est à l'affiche de La Dégustation avec Bernard Campan au Théâtre de la Renaissance. Elle nous a donné rendez-vous au Musée des Arts Décoratifs.
Europe 1, 11h30, en balade avec Isabelle Carré, Frédéric Taddeï.
Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Nous voilà au MAD, le Musée des Arts Décoratifs, qui se trouve dans l'aile de Marsan du Musée du Louvre, donc côté rue de Rivoli. Un MAD dont la bibliothèque vient de rouvrir après 9 mois de travaux. Mais vous avez préféré la folle histoire du design, le nouveau parcours.
Oui, parce que le design, c'est un peu mon enfance en fait.
Votre père était designer.
Mon père était designer et puis je suis née dans les années 70. Donc l'époque où on s'est dit que peut-être les objets pouvaient ne pas être seulement utilitaires. Enfin, on se l'était déjà dit avant, mais en tout cas, encore plus joyeux, festif, coloré. Et on ne savait pas encore que le plastique serait plein de phtalates. Donc il était partout, ce plastique. Ouais. Et notamment grâce aux designers italiens, avec les grands comme Joe Colombo ou Peschi. Voilà, que moi j'adore.
Là, c'est plutôt le design d'aujourd'hui. Là, hein.
Oui.
Ça commence par la fin.
Alors ça, on a une espèce de table basse là, assez étrange. Moi, qui me rappelle justement la table basse de mon enfance, qui était faite comme ça, d'une façon un peu plus soudée, granitique, assez étrange.
Vous me viviez au milieu des meubles designés par votre père ?
Voilà, c'est ça. Ouais, il était très ami avec tout un tas de copains qui faisaient des créations toutes plus étranges et bizarres les unes que les autres.
Lui, j'en connais au moins deux de ses créations.
Ah oui,
c'est sa fameuse chénifie en forme de boule.
Et ouais, la chaîne Hélium.
La chaîne Hélium qu'on voyait dans Le Grand Blanc avec une chaussure noire. Ça a fait rêver tous les petits garçons.
Ouais, et dans Slogan aussi.
Ah, dans Slogan, mais ça, j'étais trop jeune.
Vous mettez quand même un disque dans Slogan avec la chaîne de mon père.
Là, j'étais trop
petit. Je me la pète un peu, là.
Et je me souviens de la moto, la Squale.
La Squale,
mais
ouais,
qui n'a jamais été fabriquée, je crois.
Si, un prototype qui a roulé sur un circuit.
Pas en série, voilà.
Voilà, pas en série. On aurait été un peu trop bizarre pour ça. Là, je reconnais Stark, évidemment.
Oui, son célèbre Prestagrume. Je crois que c'est ça qui l'a rendu célèbre.
C'est ça qui l'a rendu célèbre, ouais. Et un jour, je me suis retrouvée sur un tournage dans une tour à Hong Kong qu'il avait dessiné avec les, c'était assez étonnant d'ailleurs, les photos de ses potes sur les fauteuils sur lesquels on était assis.
Ah oui, mais à Hong Kong, je crois qu'il y a des toilettes.
Voilà, où on fait pipi sur la ville.
On fait pipi sur la ville, j'étais voilà, au même endroit.
Moi aussi.
Voilà, elles sont bien de Philippe Stark, effectivement. Là, c'est la salle Prise Unique.
Ah ouais, moi j'adore.
Vous avez connu Prise Unique, vous ?
Prise Unique, bien sûr, à côté de Félix Potin.
Oui, et on allait au Prise Unique, et Prise Unique, ils avaient toute une ligne de style. Et si je me souviens bien, le slogan, c'était le beau au prix du lait.
Ah oui, j'avais oublié ça. Ah ben voilà, la radio Brion Vega, la fameuse Olivetti, la Valentine,
la machine à écrire. Les
des
deux sont orange
Sotsas,
d'ailleurs,
hein,
ouais, la couleur des années 70.
C'est le seul objet, en fait, cette radio Brion Vega que j'ai gardé. Je ne suis pas du tout matérialiste. Pourtant, Dieu sait si j'adore les objets, et surtout quand ils sont créatifs comme ceux-là. Mais je ne m'encombre pas. J'ai vraiment le minimum syndical chez moi, à part cette radio Brion Vega et 2-3 trucs quand même. Mais sinon, non,
vous
je ne suis pas du tout...
Vous asseyez sur quoi?
Bon, un canapé, tout ce qu'il y a de plus simple. Ce n'est pas les canapés que j'adore, italiens, des années 70, en velours côtelé orange.
Donc les objets que vous aimez, vous venez les regarder au Musée des Arts Décoratifs,
exactement.
Mais vous les avez
je
pas chez vous.
Je viens les regarder en musée, ouais. Ouais, il y a des expositions toujours assez hallucinantes. Je me souviens d'une exposition sur les Barbies.
Ah oui,
qui était vraiment marrante.
Il paraît que vous n'en avez jamais eu.
J'en ai eu une, voire deux, si, pour pas être injuste, quand même. Alors que voilà, mais les enfants d'aujourd'hui en ont quoi, 15. Mais du coup, je me suis vengée en regardant l'exposition. Et ce qui est fascinant, c'est de voir c'est tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'ont fait les créateurs, les maisons,
mais
tout ce qui va avec.
Dans un film que j'aime beaucoup avec vous, qui s'appelle 4 étoiles.
Ah oui.
Je me souviens que José Garcia vous compare à une poupée Barbie.
Oui, c'est vrai.
Alors là, nous avons pris l'ascenseur, on est arrivé au 9e étage et on plonge notre regard, on voit des chaises en dessous de nous, les unes au-dessus des autres.
En plastique, en bois, en tissu, en cuir. Et juste à notre niveau, on est autour de tout un tas de vases en verre. Moi, j'aime les vases, alors j'en ai pas, hein, mais de chez Venini, toujours dans cet esprit de design italien des années 70. Mon père avait travaillé d'ailleurs pour eux. Et c'est des vases qui sont faits en fait à Murano, ouais, avec des souffleurs de verre qu'on avait été voir. Et j'avais adoré voir ça, c'était de la magie, quoi.
Est-ce qu'il vous rapportait tous les produits pour lesquels il avait travaillé ?
Oh, il y en avait quelques-uns, oui. Il y en avait quelques-uns. C'est peut-être ça que moi, je suis plutôt à ne pas m'encombrer.
Donc, c'est l'absence de consommation chez vous, vient de là, en fait.
Voilà, il y en avait beaucoup. Ouais.
Mais ce que vous racontez dans les Rêveurs, votre livre, c'est que ça s'est mal terminé. Il avait la première agence de design, quand même.
Oui.
Et il a eu des ennuis avec la justice. Et
oui, il y a eu un non-lieu.
Oui, mais vous allez le voir en prison, quand
voilà,
même, avant qu'il ait le non-lieu.
Effectivement, il y a eu un non-lieu, mais avant ça, il y a eu le passage en prison. Assez bouleversant, oui. Parce que c'est toujours pareil, c'est quand on rentre dans des univers qu'on ignore, on passe à côté, il y a des murs, on sait que là derrière il y a une prison, mais c'est autre chose d'y rentrer en fait et de passer ce fameux sas, d'aller dans la maison des familles.
Mais c'est drôle, Isabelle Carré, parce que vous êtes l'archétype de l'actrice, dont on se dit, bon, bah, si elle n'était pas actrice, il ne lui serait rien arrivé, vous avez l'air tellement lisse. Et en fait, je crois que tout le monde a été stupéfait, oui, en lisant ce livre, en se disant, mais il lui arrivait tout ça, en fait, il lui arrivait tellement de choses.
Au début, le livre devait s'appeler « La partie émergée de l'iceberg ».
Oui, ça a été un bon titre.
J'aimais bien ce titre.
Mais on va continuer d'en parler en commençant cette balade en sortant du musée des arts décoratifs et en regagnant Paris ensoleillé.
Frédéric Taddeï en balade avec Isabelle Carré sur Europe 1.
Ce dimanche, jusqu'à midi et demi, l'actrice Isabelle Carré part en balade avec Frédéric Taddeï pour nous faire découvrir ses endroits préférés de Paris.
Nous voilà dans un taxi en route vers la rue Froissart dans le 11e arrondissement. J'aimerais qu'on en profite, Isabelle Carré, pour parler de votre livre Les Rêveurs qui vient de ressortir en poche. Le succès de ce livre vous a étonné ?
Ben oui, bien sûr. Je m'attendais à une petite curiosité polie. Et j'ai été très, très touchée en fait, par la bienveillance avec laquelle le livre a été reçu.
Mais c'est aussi parce que vous racontez une enfance, une adolescence même assez mouvementée.
J'ai pas voulu écrire un récit ni un livre un peu révélation comme ça. J'avais vraiment envie d'écrire une histoire, en fait.
Non,
un vrai roman.
On lit comme un roman, effectivement,
ouais,
mais on sait que c'est vous.
Voilà, mais alors avec beaucoup d'incursions de l'imaginaire, parce
J'imagine.
Que j'ai pas du tout voulu m'approcher de la vérité, j'essayais de m'en éloigner dès que je le pouvais. C'est-à-dire qu'en fait, je partais de points effectivement réels, vécus, mais tout ce qui était relié ces points entre eux, là, je partais vraiment ailleurs. Les choses que je ne savais pas, j'essayais pas d'enquêter,
de les élucider,
d'aller chercher des documentations,
d'interroger
les gens.
On se dit, ça ressemble à de la fiction, et j'imagine que ça, c'est vrai. Le fait que vous avez une mère qui vient de l'aristocratie vendéenne,
oui,
qui a un château,
oui,
et votre père, en revanche, qui lui vient du milieu plus populaire, le,
oui,
père cheminot, le grand-père cheminot, le choc de ces deux classes sociales.
Ouais.
En soi, déjà, on se dit, bon, ça ressemble à un film. Vous savez, les comédies romantiques à la française,
j'aime
bien ce genre de trucs, ouais, en général.
Et mais moi,
ils vivent tous dans des très grands appartements.
Je pense toujours à cette phrase, la vie est un roman, et c'est vrai, quoi. Il y a des moments où c'est encore plus un roman qu'on peut l'imaginer, et c'était le cas dans cette famille. Après ça, je me suis vraiment autorisée à une grande subjectivité, à suppléer la mémoire par l'imaginaire dès que je pouvais, et j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à ça, justement, et à mettre dans la peau aussi de... Imaginez la première rencontre entre ses parents quand vous ne savez absolument pas à quoi elle a pu ressembler. Je n'avais aucune information là-dessus, aucune. Et je n'ai pas voulu demander, et puis j'ai imaginé cette rencontre. Donc ça se trouve, je suis complètement à côté, mais ça n'avait pas d'importance pour moi. Ce qui comptait, c'était vraiment en fait, rendre le passé présent et modifiable.
Mais la séparation, en revanche, vous l'avez vécue.
Alors ça, oui. Ça, je l'ai vécue, et ça a été, comme je le décris dans le livre, un cataclysme. Mais... après ça, c'est aussi... Alors là, je me suis autorisée, par contre, en ce qui me concernait, moi, à moins me protéger, quand je parle du père et de la mère, ils sont vraiment devenus des personnages de roman. Ils sont vraiment éloignés de la réalité. Pour moi, non. En fait, dès qu'il s'agit de moi, là, je raconte la vérité. Et la vérité, ça a été, être dans un hôpital psychiatrique à 14 ans.
Après une tentative de suicide.
Voilà, et découvrir le théâtre à ce moment-là.
Mais entre-temps, c'est vrai que votre père s'est révélé homosexuel et que c'est la cause de la séparation. Et à une époque où ça se faisait moins qu'aujourd'hui.
Voilà, c'est aussi le roman d'une époque, effectivement. Et c'est le roman de gens qui se cachent, en fait.
Votre mère fille-mère, au départ.
Ma mère fille-mère qui se cache et ce père homosexuel qui doit se cacher aussi. Parce que dans les années 60, il faut se rappeler qu'a été votée une loi considérant l'homosexualité comme un fléau social qui devait être combattu.
En France ?
En France.
Ah ouais ?
On pouvait se faire arrêter, etc. Et puis, il faut se rappeler aussi que d'un point de vue... des maladies mentales, oui, ça n'a été retiré de l'OMS que dans les années 2000.
Après votre tentative de suicide, vous vous retrouvez dans un hôpital psychiatrique. Là aussi, ça ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'Isabelle Carré. Est-ce que vous étiez bien consciente en racontant toutes ces histoires que vous alliez probablement changer considérablement l'image que pouvait avoir de vous?
L'image, ça ne m'a jamais intéressée, en fait. Donc, la changer ou pas la changer...
L'image, c'est
ou...
important pour ceux qui n'ont pas de métier. Mais quand on en a un, ce n'est pas si grave.
Oui, je pense qu'on connaît tous, qu'on ait un métier d'image ou pas, ce grand écart en fait, entre ce qu'on est et l'image sociale que les autres ont de vous. Ça me fait penser à cette phrase de Proust, « Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres ». Et ça, on le vit tous, plus ou moins.
Mais chez les acteurs et chez les actrices, c'est encore différent, parce que c'est l'accumulation de tous leurs rôles qui fait qu'à un moment, on se fait une idée d'eux.
Ah oui, moi
vous,
j'ai l'impression que c'est plus
qu'on... Vous n'êtes pas dans les jours de la sensation, on ne sait pas avec qui vous vivez.
Non, ça ne m'a jamais intéressée, de travailler mon glamour en étant avec des jolies robes sur des red carpets.
Néanmoins, vous avez été mannequin dans la presse adolescente.
Vous êtes bien renseignée. C'était mannequin pour enfants, donc... Ouais. J'avais des petites robes, c'était pas mannequin,
Non, c'était pas les grands défilés d'aujourd'hui.
Non, mais... avec des talons hauts et longilignes et tout ça. Non, c'était pas ça, c'était mannequin pour enfants. Pardon, c'est mon téléphone qui sonne. Je le coupe. Mais effectivement, je faisais ça pour gagner ma vie puisque j'ai habité seule à l'âge de 14-15 ans.
Vous le disiez, c'est après votre tentative de suicide à l'hôpital que vous avez eu la révélation que vous aviez envie d'être actrice. Mm-hmm. Votre premier film, c'était Romuald et Juliette, un film que j'aime bien avec Daniel Auteuil.
C'était mon premier rôle, c'était aussi le premier rôle de José Garcia.
Et c'était il y a 30 ans.
Pile poil.
30 ans de carrière quand même déjà.
Ben ouais. Je les ai fêtés, là je vais avoir 48 ans, donc j'allais dire 18. 48 ans, donc j'avance sur mes 31 ans de carrière. Ben oui, mais je sais pas si je... Non, je me sens mon âge. J'ai jamais eu envie d'être une Agnès toute ma vie, quoi.
Oui, mais en même temps, vous êtes tellement jeune.
Ouais, peut-être parce que je m'en fiche, en fait.
Oui, vous croyez que c'est pour ça ?
Ouais. Je n'ai jamais mis de crème anti-ride de toute ma vie. En fait, c'est ça le secret.
Eh bien, on se retrouve dans un instant et on continue notre balade avec Isabelle Carré.
Frédéric Taddeï, en balade avec Isabelle Carré sur Europe 1.
La balade de Frédéric Taddeï et Isabelle Carré continue devant une ONG humanitaire très connue.
Le taxi nous a déposé au 9 rue Froissart, dans le 11e arrondissement, devant les bâtiments du Secours Populaire Français. Vous êtes bénévole ?
Non. Je devrais.
Bah oui, ils ont beaucoup de bénévoles.
Bah ouais, ils en ont énormément, je sais plus combien.
80 000
bénévoles, c'est énorme.
C'est l'association d'aide sociale qui compte le plus de bénévoles
devant
la Croix-Rouge et le Secours catholique. Dans la dégustation, la pièce que vous jouez au Théâtre de la Renaissance...
Je suis bénévole au Secours catholique.
Je me suis dit, elle doit être aussi.
Et dans la vie, je préfère le Secours populaire.
Et alors, en quoi votre chemin à vous, Isabelle Carré, a croisé celui du Secours populaire
Eh bien, ça fait très longtemps que je connais le Secours populaire, parce que grâce à Zabou, d'ailleurs, Bretman, on avait joué une représentation de l'Hiver sous la table au Théâtre de l'Atelier pour le Secours populaire. Et on avait été tellement heureux de voir le gros chèque qu'on avait pu donner à ce moment-là. Et d'ailleurs, on va faire une autre présentation avec la dégustation à la Renaissance pour le Secours populaire aussi.
Donc vous n'êtes pas bénévole, mais vous êtes donatrice.
Voilà,
ils
en fait,
essayer de plus d'un million de donateurs.
Oui, c'est énorme. Et ce que j'apprécie aussi, et là ils ont fait appel à moi, j'étais extrêmement honorée et touchée pour parler d'une campagne sur la solidarité mondiale. Je suis troublée par la dame qui rentre, à qui je me dis il faut qu'on tienne la porte.
Je vais vous tenir la porte. Voilà. Bah, entrez. Alors, il y a écrit à l'entrée, ici, vous pouvez déposer vos dons financiers ou par Internet ou par virement. Merci pour votre soutien. Bonjour.
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 Bonjour, Frédéric Tadéhi. C'est moi qui accompagne Isabelle Carré. Alors, on se demandait quelle était la différence entre le Secours populaire et le Secours catholique. Parce que dans sa pièce de théâtre, elle joue...
Bénévole au Secours catholique. Mais...
Ah, d'accord. Ben, comme le dit le mot catholique, c'est plutôt d'obédience confessionnelle. Sachant quand même que nos amis du Secours catholique sont aussi très ouverts, bien sûr. Secours populaire, ben voilà, c'est une association qui s'est créée au lendemain de la guerre.
Ah, mais même avant de ça.
Ah ben oui, bien avant. Il y avait des racines déjà, voilà, dans le Secours Rouge International.
Oui, voilà, moi j'adorais quand ça s'appelait. Enfin, j'étais pas là, mais Secours Rouge International, c'était la Croix-Rouge communiste, en fait.
Oui, exactement. C'est exactement ça. Et puis ensuite, c'était le Secours populaire de France et des colonies qui a fusionné. Avec l'association des victimes du nazisme.
Voilà, ça c'était après la Seconde Guerre mondiale.
C'était après la Seconde Guerre mondiale, donc qui a créé le Secours populaire français, et donc une action très forte liée aussi à cette période, hein, qui fait que on a déjà eu un peu des liens assez importants à l'échelle internationale avec tous les peuples qui se soulevaient pour leur indépendance. Et donc toute une série aussi d'avocats qui partaient défendre les personnes qui étaient emprisonnées
donc
pour leurs opinions.
Là avec l'internationalisme de l'époque.
C'est dans notre ADN, j'allais dire, puisque le mot solidarité est sans frontières.
Par exemple, en ce moment, vous faites des actions au Mozambique.
Oui, on est après le terrible cyclone là, qui a affecté une grande partie du Mozambique, du Zimbabwe, du Malawi. On a orienté plutôt notre activité, notre solidarité sur le Mozambique. Et on a une équipe qui va partir prochainement.
Et vous faites quoi alors dans toute cette histoire, Isabelle Carré?
Ben moi, juste, quand on m'a demandé de parler du fait que le Secours populaire a aussi des actions internationales, j'avais très envie d'être là, quoi, d'être là à vos côtés, d'en parler à la presse, comme on fait aujourd'hui, et puis puis vous soutenir dans ces actions-là, faire des petits messages sur Internet, enfin voilà, avec ce qu'on peut faire, quoi. Mais c'est vrai que je suis très bouleversée, comme beaucoup de gens, en ce moment, par tout ce qui se passe avec les migrants et cette image. Qu'on peut avoir d'eux comme de gens qu'on n'a pas envie d'accueillir en fin de compte. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On refuse ces bateaux, mais on ne fait rien non plus sur place. Donc, c'est la double peine, en fait. Alors, moi, j'ai le sentiment que c'est les deux qu'il faut faire, ce que fait le Secours populaire, d'ailleurs, avec beaucoup, beaucoup d'actions vis-à-vis des migrants. Je suis peut-être sensible à ça parce que...
Le problème, c'est quand on parle des migrants, maintenant, les gens se plaignent qu'on ne parle pas des Français, qui eux aussi, il y en a qui sont très pauvres, et on l'a vu autour des ronds-points ces derniers temps.
Absolument.
On a l'impression qu'il y a une concurrence.
L'humain est une valeur en soi. Donc, après, sans discrimination, il faut aider tous les gens qui se retrouvent dans des situations de pauvreté ou de précarité. Ceux qui ont fui un pays, qui se réfugient ici, ou pour des raisons politiques ou économiques. Et puis ceux aussi qui sont en difficulté dans notre pays, puisque la solidarité populaire, elle continue, elle se développe. On a toujours l'impression que la pauvreté, ce sont uniquement les personnes qui sont sans abri. Mais oui, ce sont aussi nos voisins qui vivent à côté de chez nous, qui sont bien habillés. On a l'impression qu'ils ont une activité.
Ils leur arrive de pousser la porte ici et de venir
Alors
là où
c'est,
nous trouvons.
C'est plus difficile quand on est en précarité de venir pousser la porte d'une association comme le Secours Populaire ou une autre association. Parce que les gens pensent toujours qu'il y a plus pauvres qu'eux et qu'ils n'ont pas besoin de la solidarité d'une association. C'est vraiment pour les gens très pauvres. Donc il faut aller au-devant de ces personnes et souvent par des personnes qui connaissent le Secours populaire et qui disent « Mais si, on peut te mettre en lien avec l'association, on peut regarder ta situation et puis à un moment donné, que tu puisses avoir un coup de pouce, que ce soit dans le domaine des vacances, des difficultés à se nourrir hein, ou alors... à payer la facture d'énergie. On doit essayer de trouver ensemble des moyens de s'en sortir.
On va rester au Secours populaire français avec Isabelle Carré, mais je vous propose d'écouter une chanson que vous aimez beaucoup, All is Full of Love.
Et voilà, la chanson de Björk. C'est bien choisi. Parfait.
C'était All is Full of Love de Björk, une chanson qui vous a fait partir en Islande, hein, c'est ça ?
Oui, sur les traces de Björk, en véritable fan de Björk que je suis, je me suis retrouvée en Islande et je l'ai cherchée dans tous les bars de Reykjavik, mais je ne l'ai pas trouvée.
Mais c'est pas pour rire, vous l'avez
non, c'est pas pour rire.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
J'avais 27 ans.
Ah oui, ouais, donc vous étiez déjà actrice.
J'étais déjà adulte et mature.
Vous êtes retrouvée sur le tournage de James Bond qui se tournait à ce moment-là.
Mais
en,
oui,
en
absolument. J'étais sur le site de Jökulsárlón, un des plus beaux sites d'Islande. Et là, j'ai été poursuivie par une horde d'assistants furieux qui m'ont dit que j'avais gâché la prise de James Bond.
Vous étiez dans le champ.
Et j'étais dans le champ, effectivement. Donc j'ai fait la James Bond girl.
On se retrouve dans un instant, toujours au Secours populaire français avec Isabelle Carré.
Frédéric Taddeï et Isabelle Carré parlent humanitaire dans leur balade de ce dimanche. Et d'ailleurs, ils ont été rejoints par une troisième personne qui s'y connaît plutôt bien.
Nous sommes au Secours populaire français avec Isabelle Carré et Corinne Makowski. C'est quoi le déclic ? Pourquoi est-ce qu'à un moment on plonge dans l'humanitaire ?
Ah, mais c'est parce qu'on ne supporte pas les injustices.
Oui, mais on pourrait ne pas les supporter et vivre
ne rien
avec.
Faire.
Non, on peut donner de l'argent dans la rue, on peut s'indigner, on peut faire des tas de choses. Mais à un moment, quand on rentre dans l'humanitaire...
Mettre sa vie dedans, c'est ça.
Ouais, c'est tout à fait...
Moi, je crois que c'est une histoire aussi de rencontre avec des personnes. Parce que moi, évidemment aussi, on m'a dit, tiens, est-ce que tu veux donner un coup de main ? Et puis après, finalement, la responsable de l'association m'a entraînée plus loin, elle m'a fait découvrir plein de choses. Et je me suis dit, on a l'impression que c'est peut-être réservé à des spécialistes. Et en fait, non, ça, chacun peut y trouver sa place.
Vous êtes quoi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis secrétaire nationale en charge des questions de solidarité internationale. Je suis aussi directrice générale adjointe ici à l'Association nationale.
Mais à la fin, on se dit, ça devient une carrière, non ?
En tout cas, on voit directement l'utilité de ce qu'on fait. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est jamais la même chose, et on rencontre toujours des nouvelles personnes qui ont envie de faire des choses.
Souvent, quand on fait des bonnes actions, on se sent mieux après. Mais quand c'est devenu son métier, en fait, est-ce que vous avez encore ce type de bonheur qu'on
peut avoir ?
À mon avis,
on voit tout ce qui reste à faire, non ?
Oui, je crois que moi, j'aime pas le mot métier. En fait, c'est plutôt réellement un engagement. Et je crois que c'est dans l'association, les collecteurs bénévoles sont des gens plutôt engagés par rapport à ce qu'ils font, plutôt que de venir passer du temps.
Et vous avez encore ces moments, ces bouffées de plaisir, de bonheur, de satisfaction, de joie, peu importe le mot
qu'on met
là-dedans.
Tous les
jours, d'avoir fait quelque chose de bien, d'avoir aidé quelqu'un.
Vous savez ce que je dis, c'est que la solidarité, c'est pas triste. Alors souvent, on dit, mais avec tous les malheurs des gens et tout. Mais non, parce que l'important, c'est de faire avec les gens. Et de faire des choses très concrètes. Je vois en ce moment, on a beaucoup d'activités qui se préparent avec des enfants, qu'on appelle les enfants copains du monde. Rien que le mot est génial.
Je crois que c'est le
Secours Populaire
Français qui est le premier à emmener les enfants en vacances.
Il y a un enfant sur quatre seulement qui part en vacances dans sa vie.
À l'échelle mondiale ou à l'échelle française ?
En française.
C'est un sur deux.
Un sur deux.
Un enfant sur deux qui ne part pas en vacances. Et par contre, il y a un chiffre quand même qui est terrible. Alors, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais c'est quand même terrible. C'est 1 milliard d'enfants qui sont pauvres dans le monde. Et nous, on dit, ne les condamnons pas à la pauvreté à perpétuité. Donc, il y a vraiment beaucoup de moyens d'agir.
C'est ça qui me touche moi beaucoup dans le Secours Populaire. C'est à chaque fois, vous mettez toujours les enfants au cœur de vos actions.
Ce qu'il y a aussi, c'est que bien sûr, on peut sortir le porte-monnaie et donner, mais on peut faire aussi des choses très sympathiques. On peut organiser un concert avec ses copains, voilà, dans le bénéfice et pour une action de solidarité. On peut, organiser une soirée. Enfin, vous voyez, toutes des initiatives où des salariés dans une entreprise disent, tiens, je vais faire circuler un appel pour trouver des familles qui l'été prennent bénévolement un enfant en vacances, par exemple. Donc ça appartient à chacun de faire aussi des petites choses qui, additionnées les unes aux autres, créent cette grande chaîne de solidarité qui est quand même très dynamique.
Merci Corinne.
Merci à vous.
Merci.
Merci Isabelle.
C'est drôle, en vous regardant, là, je me disais, vous avez joué à peu près tous les métiers. Vous auriez pu très bien
c'est
jouer
vrai,
le
ouais.
rôle de cette dame.
Ouais, moi aussi, je m'y serais bien vue, ouais.
Ouais.
C'est vrai que, secrétaire, j'ai déjà fait politique,
pianiste,
juge, avocate.
Chirurgienne, paysanne, libraire, critique de cinéma, infirmière. Il n'y a que les tueuses et les gangsters que vous avez jamais joué, je crois.
Si, ouais, avec José Garcia, dans un film assez fou qui s'appelait « La mort du Chinois ». J'avais une arme à feu. Je ne sais pas si j'étais vraiment un gangster, mais enfin... J'ai déjà tué, quand même.
En revanche, le rôle qui vous poursuit, c'est celui de vieille fille. Encore une fois, dans la dégustation.
Vieille fille, ouais, ça me va bien.
C'est vieille fille dans
ça
la dégustation.
Ça doit être les lunettes.
Non, mais je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, je me souviens dans 4 étoiles, que j'aime beaucoup, vous étiez une espèce de vieille fille, déjà.
Ouais, alors, vieille fille sexy, alors.
Oui. Mais ça n'empêche pas.
Il y a vieille fille et vieille fille, quoi.
Oui, c'est vrai. Dans la dégustation, pas sexy, pas sexy.
Qui s'ignore.
Catholique.
Et qu'il devient, disons.
Oui, c'est ça. Mais c'est drôle, cette idée de la vieille fille qui vous poursuit alors que ça n'existe plus, les vieilles filles.
Oui, et puis d'ailleurs, c'est très péjoratif, quoi, en fait.
Plus personne n'emploie cette expression.
Est-ce qu'on dit d'ailleurs vieux garçon ? Ouais, on dit aussi vieux garçon.
On le disait, mais on ne dit plus ni l'un ni l'autre
qu'au
cinéma.
Et c'est pas plus mal.
En disant, c'est un rôle de vieille fille.
C'est vrai.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant avec Isabelle Carré.
Frédéric Taddeï, en balade avec Isabelle Carré sur Europe 1.
C'est vers un théâtre du 10e arrondissement que se dirigent Frédéric Taddeï et Isabelle Carré pour la suite de leur balade.
Nous voilà en voiture, encore une fois, avec Isabelle Carré sur les grands boulevards en direction du théâtre de la Renaissance. Quand vous enlevez vos lunettes, vous voyez quelque chose ?
Que dalle.
Rien ?
Rien.
Mais tous les rôles où je vous ai vu au cinéma où vous n'aviez pas de lunettes, en fait, vous ne voyez rien.
Je ne vois rien et je ne me ferai jamais opérer parce que c'est très pratique, en fait.
Bah oui, parce que en fait, tout est flou pour vous.
Et ça me permet de m'isoler et d'imaginer. Je me souviens, par exemple, bon, ça remonte, mais dans Le Hussard sur le toit, j'étais censée imaginer une forêt en flammes à ma droite et des brasiers à ma gauche avec des gens malades. Bon, ben, il n'y avait pas tout ça. Ben, moi, je le voyais puisque je ne voyais rien.
Et quand vous avez un rôle toute nue, par exemple, c'est plus pratique, non?
Ouais,
vous
aussi.
Voyez pas que les gens
Absolument,
voient.
Absolument, je vois aucun regard graveleux se poser sur moi. Je suis tranquille.
Moi, c'était Carole Bouquet qui m'avait raconté que au départ, elle était comme vous, elle était complètement myope. Et quand elle a enlevé ses lunettes et qu'elle a commencé à jouer, elle voyait pas la caméra et elle trouvait ça formidable.
Le jour, voilà, c'est ça aussi.
Elle a mis des lentilles.
Voir la caméra.
Elle a mis des lentilles. Elle a vu la caméra et ça l'a beaucoup impressionnée.
Et ouais, c'est bien d'oublier en fait tout ce qu'il y a autour de soi. Et d'être dans l'imaginaire, quoi. Complètement dans l'imaginaire, et puis quand même relié à son partenaire.
Et le risque, c'est de jouer tout seul, voilà.
Je suis complètement avec le partenaire, et d'autant plus qu'il y a un flou artistique autour.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a un vrai gang des actrices myopes qui ne voient absolument rien sur les plateaux.
Oui, c'est pratique aussi sur scène, parce que là, il se trouve que je joue avec mes lunettes pour le personnage d'Hortense dans la dégustation. Mais habituellement, je joue sans lunettes et je ne vois pas le public non plus. Donc, je ne vois pas s'il y a quelqu'un au premier rang qui est en train de s'endormir ou pas.
Grand avantage. Tous ces théâtres sur les grands boulevards, parce que les grands boulevards, c'est quand même avant tout les théâtres.
Mais nous, on est dans celui de Sarah Bernard quand même.
En plus, mais on va y aller tout à l'heure, on en reparlera. Mais tous ces théâtres, vous avez joué dans un certain nombre d'entre eux.
Pas sur les grands boulevards, justement.
Ah bon, c'est la première fois.
Mais non, j'ai jamais joué. J'ai beaucoup, beaucoup joué à l'Atelier, une fois au Théâtre Héberto, sinon pas mal de fois au Rond-Point. Mais non, à la Renaissance, à la Porte Saint-Martin, au gymnase, jamais.
Ouais, c'est donc vos débuts sur les grands boulevards.
Mes débuts sur les grands boulevards.
C'est quoi vos pires souvenirs de théâtre, Isabelle Carré?
Au théâtre de Chaillot.
Très impressionnant, très grande salle.
Très froide, difficile de sentir le contact avec le public. À l'époque, en plus, c'était pas sonorisé, donc il fallait vraiment envoyer le son. Et puis, c'était une pièce de Shakespeare. Je jouais Desdémone. Je me faisais étrangler tous les soirs. Ça m'angoissait un peu. Ça m'angoissait même tellement qu'il y avait des fois où j'avais des paniques attaques sur scène et j'étais obligée de me chanter des chansons.
Vous voulez dire que pendant la pièce, vous chantonniez ?
Voilà, en même temps que je disais du Shakespeare, je me chantais des chansons pour me calmer, des chansons d'enfance, en l'occurrence.
Vous alliez vous faire étrangler dans peu de temps.
Voilà, donc il faut imaginer... quelqu'un disant les mots de Shakespeare et se chantant Candy.
C'est pas idiot. Et vos meilleurs souvenirs alors?
Ah bah là, c'est pas mal en ce moment, je dois dire. Hein. Franchement, ouais. Retrouver Bernard Campan 17 ans après se souvenir des belles choses, avoir la grande joie de le retrouver comme si c'était hier, alors qu'on s'est quasiment pas croisés depuis 17 ans. Et puis là, c'est une vraie comédie, et moi, je suis plutôt habituée au drame.
Oui.
Voilà, me faire étrangler, comme dans Desdémone. Je devrais d'ailleurs écrire un jour un livre. J'ai testé pour vous toutes les morts possibles avec mon top 5. Ça pourrait être intéressant. Et c'est vrai que...
Laquelle était la mieux?
Laquelle était la mieux? Peut-être, je ne sais pas, au Véronal, dans Mademoiselle Else. Non, la plus jolie, c'est, je pense, Rosette dans Ne badine pas avec l'amour. De Musset, où juste Rosette, en fait, a le cœur qui éclate parce qu'elle se fait tromper par Perdican et elle meurt comme ça, de trop d'amour. Pas mal.
Dans Entre tes mains, vous jouiez avec Benoît Poulvord, c'était une espèce de...
Ah, je faillissais mourir, je ne sais pas si ça se dit, comment ça se dit.
De boucher de Chabrol.
Oui, absolument, c'était tout
Poulvord
à fait inspiré
de ça. Poulvord dans le rôle
de
Jean-Yann et vous dans le rôle de Stéphane Audran.
Il manquait de me planter un couteau à la fin, mais il ne le faisait pas. Il le retournait contre lui. Non, là, c'est plus gai. La dégustation est plus joyeuse.
Vous ne mourrez pas la faim.
Et ça fait du bien.
Oui. Eh bien, puisque nous sommes sur les grands boulevards, écoutons Grand Boulevard, mais pas chanté par Yves Montand, ce serait trop facile, chanté par Dany Briand, Antoine Duléry et Damien Sargue.
Ça va, les gars? Ça vous dit une petite balade?
Je connais un quartier très, très sympa.
Sur les grands boulevards?
Ah ouais.
Antoine, Damien,
allons-y.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzag et parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et les camelots bavards.
Oh, trop bavard.
Qui vous débite leur bobard? Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard.
Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir.
Ah ouais.
On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont écrits partout le long de nos grands boulevards.
Hey.
Ouais, j'arrive.
J'aime flâner sur les grands boulevards, les soirs d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir,
ouais,
deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre où la fenêtre donne sur un coin de ciel, d'où me parviennent comme un appel à toutes les rumeurs, à toutes les lueurs du monde enchanteur des grands boulevards.
C'était Grand Boulevard, chanté par Dany Briand, Antoine Duléry et Damien Sargue.
Isabelle Carré continue de nous partager son quotidien d'actrice à Paris dans la suite de sa balade avec Frédéric Taddeï.
Nous sommes devant l'hôtel Providence dans le 10e arrondissement, 90 rue René Boulanger, devant un immeuble d'époque Louis-Philippe, dans une petite rue calme, jalonnée de réverbères à l'ancienne, juste derrière le théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est ici que vous donnez rendez-vous à votre partenaire Bernard Campan.
Oui, voilà.
Avant
souvent,
d'aller jouer, la Renaissance est juste à côté. Hein.
Juste derrière, on se retrouve en fait, pas qu'avec Bernard, toute la troupe. On est, je sais pas, c'est vraiment le talent, ça, d'Ivan Calberac, qui a écrit et mis en scène la pièce, d'avoir réuni des gens qui aiment se retrouver, même en dehors de la pièce. Et on est vraiment une équipe.
C'est à la fois une terrasse, hein, très fréquentée, mais aussi un restaurant, un bar et un hôtel. Eh bien, entrons.
Entrons. Ça va ?
Oui, ça va.
Bernard Campan, bonjour.
Salut, enchanté.
Eh bien, allons-y.
Alors, je mets là ou quoi ?
On pensait plutôt se mettre
là-bas. Ah bah là-bas, ouais, on sera mieux.
On sera peut-être plus,
ouais,
plus tranquille.
Près de la cheminée.
Alors, ces retrouvailles, 17 ans après, avec Isabelle Carré, elle a fait des progrès ?
Un petit peu.
Ah là là. Oh, je ne me suis même pas posé cette question. Tu vois, est-ce que tu aurais pu faire des progrès dans...
Vous aviez eu le César à l'époque pour se souvenir des belles choses.
Oui, hein, absolument. Et
vous n'aviez pas été jaloux, Bernard ?
Meurtri. Non, pas jaloux. Non, j'étais...
Je l'avais partagé, moi, je l'avais coupé en deux. Hein.
Ouais,
oui,
bah,
tous les
mignon,
on sait bien, toutes les actrices, les acteurs, pareil, remercient tout le monde, le partage.
Ah non, mais là, vraiment,
mais
elle
là,
a dit...
Vrai.
Il y en a quelqu'un qui part avec.
Elle a dit, il faut trouver une scie, quelque chose, et il faut le couper en deux, hein, pour un bout pour toi, un bout pour moi.
Oui, voilà. Juliette, deux amnésies, c'est très bon ça pour les Césars. Hein.
Bah, il y a des rôles à César, oui. Bon, c'est vrai, hein, ça a des rôles plus dramatique, parfois ça peut aider pour avoir le César.
Bah, j'attends la prochaine maladie alors.
Et pour les Molières, vous avez eu deux Molières. Qu'est-ce qui est
non,
bon
j'étais
pour les
pas
Molières
malade à ce moment-là. Non, c'était l'hiver sous la table de Topor et puis Mademoiselle Else. Je mourrais quand même avec Mademoiselle Else, on l'a dit tout à l'heure.
Ah, tu vois quand même.
Ouais, quand même.
Faut mourir un minimum pour avoir un Molière.
Franchis un peu.
Nous, on a eu un Molière, mais c'était les inconnus, c'était comique, donc personne ne mourrait.
Alors là, vous jouez un caviste spécialisé dans la biodynamie. Les vins en biodynamie, il dit qu'on peut les boire autant qu'on veut, on n'a jamais mal au crâne le lendemain. Est-ce que c'est vrai, vous qui êtes un spécialiste des vins, Bernard Campan?
Oui, il précise que c'est son meilleur argument commercial aussi, hein, pour la vente, parce que l'environnement, tout le monde s'en fout, mais pouvoir picoler deux fois plus, tout le monde est partant. Donc, moi, je ne sais pas si c'est vrai, malheureusement. Bon, j'aurais plutôt tendance à aller vers un vin de la biodynamie, parce qu'effectivement, ça me semble plus naturel. Alors, je ne sais plus ce que ça tient en compte, les marées, la lune. Le...
Ah, je ne sais pas. Quoi,
c'est
pas
très...
Ah
oui,
justement,
non,
c'est voilà,
très bien. La biodynamie. Déjà commandé. Hein.
Moi, je prendrais un petit citron chaud, moi. Ouais,
avec elle, je pensais que j'aurais cru le contraire. C'était Bernard Coquand qui commandait un verre de rouge.
Encore une fois, les apparences. Méfiez-vous des apparences.
Thé, mais non.
Moi, alors, en fin de matinée, comme ça, non.
Un café pour moi. Un café, s'il vous plaît. Vous aussi, vous êtes très connaisseuse en vin, non?
Alors moi, j'ai carrément fait la route des vins de Bordeaux quand j'étais plus jeune. J'aime bien le Minervois maintenant. Je me spécialise un peu dans le Minervois. Grâce à des amis voilà, que j'ai rencontrés qui me font découvrir plein de...
Mais
grâce au frère Larieux, en fait.
Sur le tournage de Souvenir des belles choses, Bernard Campan faisait des dégustations.
Absolument. Il faisait des dégustations et il nous avait ramené des vins, dont mes deux vins préférés, le Chasplin et le Saint-Julien-Léoville-Lascaz.
Le Chasplin, c'est pour le nom, non?
J'avoue.
Généralement, c'est le Chasplin ou le Mille Secousses.
On le cite, le Mille Secousses, dans la pièce.
Et la révélation, ça a été quoi pour se mettre à aimer le vin, Isabelle Carré? Parce que c'est aussi, on boit du vin par habitude.
C'est la révélation de se rendre compte qu'il y a vin et vin. Et j'ai eu un peu le même choc avec la nourriture. Chez moi, on ne faisait pas particulièrement attention à ce qu'on mangeait. C'est le moins qu'on puisse dire. Et tout à coup, grâce à une tournée, je me suis retrouvée chez Bocuse, grâce à Jacques Weber, qui nous avait tous invités, toute la troupe, à manger chez Bocuse. Et là, je me suis rendu compte que si, ça pouvait être complètement dingue. Et je n'en suis pas revenue. Une grosse révélation. Le mot révélation est absolument bien, bien choisi.
Et vous, Bernard Campan?
Sur la bouffe ou sur l'alcool?
Sur le vin.
Sur le vin, ah oui. Tu parlais du vin, là tu...
Les deux.
Ah oui, oui, oui.
C'est vous qui dites dans cette pièce, comme la plupart des Français d'ailleurs, que le vin, ce n'est pas de l'alcool.
Bah oui, je l'ai beaucoup entendu dire ça. Puis c'est vrai que je me souviens d'avoir eu des discussions alcoolisées autour du thème, est-ce que le vin, c'est de l'alcool?
Il y a plein de gens qui me disent, continuent de me dire, au grand dam des médecins, le vin, ce n'est pas de l'alcool.
Bah, oui, mon cardiologue m'a dit ça, parce que moi, je fais de l'hypertension. Il m'a dit, écoutez, la mauvaise nouvelle, c'est que bon, bah, l'alcool, vraiment, il faut éviter. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous avez droit à un petit verre ou deux verres de vin rouge, de bon rouge, plutôt, de préférence,
par jour.
Ça,
c'est dans la pièce, hein, c'est pas dans la vraie
vie. Non, non, c'est dans ma vraie vie à moi.
Parce que dans la pièce, c'est un peu la même chose.
Ah, mais tout à fait. Mais vous savez,
c'est souvent que la fiction rejoint la réalité.
Oui, mais là, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je répugne à dire, docteur, je vais faire un effort pour prendre mes médicaments, sachant que pour l'hypertension, on n'a besoin que d'un médicament. Mais pour la pièce, on préfère dire mes médicaments. Mais c'est moi, l'hypertendu, c'est moi. Ouais.
Ah oui.
Régulé, l'hypertendu régulé.
C'est pas du tout un rôle de composition, c'est très mauvais ça pour les Molières. Vous n'aurez rien.
Non, non, non. De même que Hortense, c'est pas du tout un rôle de composition, parce qu'on voit bien qu'Isabelle, elle commande un verre de rouge, alors qu'on ne soupçonnerait pas une seconde.
Non, mais c'est ce que je lui disais. C'est surtout son livre qui est paru l'année dernière qui a changé totalement l'idée que les gens pouvaient se faire d'elle.
Voilà, qu'on nous met dans des cases, mais Hortense, elle n'est pas dans une case, Isabelle non plus. Ouais.
Mais c'est plus difficile quand on a commencé comme humoriste, comme vous. Parce que le métier de l'humour, être un comique, comme on dit, ce qui est toujours un peu dévalorisant, ça vous enferme dans une case et une seule. Alors là, bien pire que le métier d'actrice, non?
Mais justement, ce souvenir des belles choses a tout foutu par terre. Et...
Ouais.
Ou plutôt non, tout vous recommencer pour lui.
Ouais, bah oui, c'est sûr que moi, j'avais une image à casser, quoi. C'est ça, le virage, il s'est fait comme
c'est
ça.
C'est le type drôle, quoi. C'est ce qu'il y a de pire. Mais le type drôle, ça vous poursuit toute votre vie.
Oui et non. Oui et non, mais c'est vrai que parfois je suis surpris parce qu'on me renvoie l'image de l'inconnu, le trio des inconnus, vraiment comme si ça prenait toute la place. Encore, ça peut m'arriver, mais assez rarement. Et ça me surprend. Hein, ça me surprend parce que j'ai quand même la chance de ne pas être vu que comme ça. Mais sinon, ça pourrait être...
Mais ça a dû être long.
Eh ben,
pas tant que ça.
Vous savez, dans les années 81-82, on avait fait une émission qui s'appelait Le Théâtre de Bouvard, qui était un gros succès à 8h moins le quart tous les soirs. Et dans la rue, les gens nous appelaient « Oh, Théâtre de Bouvard !» quand ils n'avaient pas le nom de Mimi Mati ou de Michel Bernier ou de je ne sais qui. Et on nous appelait Théâtre de Bouvard. Pendant des années, on m'a appelé Théâtre de Bouvard, quoi. Après, on m'a appelé Stéphanie de Monaco. Pourquoi pas. Et puis souvent on m'appelait Légitimus, Didier Bourdon, mais bon, alors voilà. Puis à un moment, de temps en temps, commence à arriver Bernard Compon, enfin encore. Ah, quand même, j'arrive à avoir un nom. Et puis de temps en temps, ça revient en arrière. Ah, Stéphanie Monaco, bah ouais, pourquoi pas. Mais c'est un jeu tout ça.
Et vous, vous appelleriez du tout, personne ne vous reconnaît d'après ce que vous racontez dans,
oui,
dans les
c'est vrai,
radars.
Voilà.
Personne
ne reconnaît. Souvent on me dit, mais je vous connais, mais d'où? Ça, c'est souvent des gens qui me prennent pour quelqu'un de famille éloignée, une cousine éloignée. Ou...
Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout à l'heure, en sortant du musée des arts décoratifs...
Oui, mais c'est parce qu'elle avait vu le film hier, la veille.
Voilà. Elle vous avait vu la veille dans un film. Elle voulait absolument...
Il faut vraiment que je passe à la télé la veille pour que ça arrive, je vous assure.
Mais c'est ça qui se passe,
oui. On va laisser passer les informations et on se retrouve... juste après, avec Isabelle Carré, vous allez nous faire visiter le théâtre de la Renaissance.
Avec joie.
Frédéric Taddeï, en balade avec Isabelle Carré sur Europe 1.
Journal de la mi-journée, c'est avec vous Fabienne Lemoyle, bonjour.
Bonjour Justine, bonjour à tous. Dans le journal de la mi-journée, nous reviendrons sur cet incendie particulièrement violent hier soir à Paris dans le 19e arrondissement. Plusieurs étages d'un immeuble moderne ont été touchés après une forte explosion visiblement provoquée par des bouteilles de gaz qui ont explosé sous l'effet de l'incendie. Heureusement, aucune victime. Tous les habitants avaient pu être évacués à temps grâce à l'aide, entre autres, de plusieurs jeunes du quartier. Vous l'entendrez, nous rejoindrons sur place Victor Dolande. Un référendum sur la politique d'Emmanuel Macron, voilà ce que Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes, veut faire du scrutin du 26 mai prochain. Il faut mettre un carton rouge au président de la République. Voilà ce qu'il a dit au grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos ce matin, vous l'entendrez. Le 7 avril sera désormais une journée de commémoration du génocide des Tutsis. Décision d'Emmanuel Macron annoncée ce matin par l'Élysée, le jour même où le Rwanda commémore les 25 ans de ces massacres qui ont fait au moins 800 000 morts. Nous en parlerons avec mon invité Florent Pitot, historien spécialiste du génocide des Tutsis. La femme de Carlos Ghosn en appelle à la France 3 jours après la nouvelle arrestation de son mari au Japon. Carole Ghosn, qui vient juste d'arriver à Paris, dit ce matin dans le journal du dimanche que son mari a enregistré un message pour désigner les responsables de ce qui lui arrive. Message qui sera bientôt diffusé. Le journal des sports avec le PSG qui pourrait être sacré dès aujourd'hui champion de France. On en parlera avec Simon Rubin. Et puis la météo avec toujours beaucoup de nuages et même de la neige sur les Alpes à partir de 1100 mètres. Côté température, il fera entre 10 et 16 degrés.
Merci Fabienne. Bienvenue sur Europe 1. On est le dimanche 7 avril. Il est midi. Bon week-end.
Europe 1, en balade avec Isabelle Carré, Frédéric Taddeï.
Nous sommes en balade avec Isabelle Carré aujourd'hui. Isabelle Carré qui joue en ce moment La Dégustation, une pièce d'Yvan Le Calberac avec Bernard Campan tous les soirs. Au Théâtre de la Renaissance.
Tiens, je vais en profiter citer aussi mes camarades, Mounir Amamra, Éric Viellard et Olivier Clavry.
On voit bien les actrices qui veulent remercier tout le monde, ce dont on parlait tout à l'heure.
Non, mais c'est vrai, là. Je vous jure que c'est vrai, là.
Mais j'en suis sûr.
Ils jouent trop bien et on adore se retrouver. Et Mounir est une espèce d'énorme révélation. C'est un jeune comédien et c'est sa première fois sur scène. Et franchement, on dirait pas.
Et là, nous sommes devant la Porte Saint-Martin, très impressionnante. Il y a le Théâtre de la Renaissance à notre gauche, lui aussi très impressionnant.
C'est joli, n'empêche, on sort de la Providence, maintenant on est à la Renaissance.
Vous avez vu les cariatides là-haut, et qui écrit 1872, c'est la date d'inauguration du théâtre. C'est toujours plus impressionnant un théâtre qu'un plateau de cinéma, non ?
Et il y a des fantômes dans un théâtre.
Ouais. Cela dit, il devait y en avoir dans les studios de cinéma. Quand autrefois, il y avait les studios de Boulogne.
Les grands studios d'Arpajon aussi. Moi, j'avais tourné là-bas grâce à le film Cœur d'Alain Resnais.
Vous n'avez jamais tourné à Cinecittà
J'ai failli.
Les studios, c'est ça, c'est impressionnant.
C'est un grand regret. J'étais avec Jacques Villeray. C'était pour une adaptation de Volpone. Michel Serrault, Béatrice Dalle. Il y avait Maurice Garrel, enfin, c'était une distribution hallucinante. Et on avait même été pendant 15 jours répétés à Cinecittà. Moi, j'étais enchantée, quoi. Michel Serrault me racontait toute sa vie, je buvais du petit lait. Et le film s'est arrêté la veille du tournage.
Ah, c'est triste.
Ouais.
Il y a comme ça, il faudrait raconter tous les films qu'on n'a pas faits. Hein,
oui, après, on retournerait à la Providence pour reprendre un verre de vin rouge.
Pourquoi il y en a eu tant que ça?
Bah quand même, ouais. Il y en a forcément des films qui s'arrêtent, et j'ai envie de dire de plus en plus. Ils se décalent souvent. Souvent, c'est pas qu'ils s'arrêtent, qu'ils se décalent. Mais il y a aussi des films qui se font pas.
Ça devient difficile de faire du cinéma. Vous avez l'impression, ce que disent souvent les professionnels
du cinéma.
J'ai vraiment
l'impression que c'est un miracle à chaque fois que ça se fait. J'ai cette impression-là depuis toujours. Mais cette impression grandit.
Pourtant, la France fait encore entre 200 et 300 films par an.
Oui, mais il y avait le plus grand producteur du cinéma, c'était quand même Canal+, qui aujourd'hui, on le sait, donne moins. Alors bon, il y a d'autres partenaires du coup, mais c'est vrai que pour réussir à faire un montage financier, enfin après je vais me lancer dans des trucs, c'est pas ma spécialité, je suis pas productrice, mais voilà, il faut Canal, il faut des chaînes hertziennes, il faut
des régions,
voilà, il y a tout un...
Il y a plein de guichets,
voilà,
comme on appelle ça.
Voilà, plein de guichets, et c'est rare de les avoir tous aujourd'hui finalement.
Il y a le CNC aussi.
Il y a le fameux livre qu'il faut absolument lire quand on aime les films du milieu. Ce terme qui a été inventé, je crois, par Pascal Ferrand, qui a écrit un livre qui raconte merveilleusement bien ça, sur les films du milieu. Voilà, comment,
les films ni trop chers, ni pas non plus sans le sou.
Et quand même d'auteurs, qui sont d'ailleurs les films qui se vendent le plus à l'international, qui sont les films qui représentent, en fait, qui sont la vitrine du cinéma français depuis toujours, depuis la Nouvelle Vague. Et ceux-là, ben, c'est pourtant les films que l'étranger préfère de nous. Ceux-là sont plus difficiles à monter aujourd'hui.
C'est souvent les vôtres, d'ailleurs. Vous êtes une actrice des films du milieu.
Oui.
C'est ça. On vous voit rarement dans très gros budgets.
Ça m'arrive de faire quelques comédies, mais comme je vous le disais, notamment en parlant de la dégustation, ce n'est pas la majorité. Ouais.
Et alors là, quand vous arrivez au théâtre, comme aujourd'hui, au théâtre de la Renaissance, vous ressentez quoi?
J'ai pas le trac, parce que le trac, je l'ai rarement, en fait. J'ai pas d'angoisse non plus, puisque personne va m'étrangler, Dieu merci, aujourd'hui.
Vous allez pas mal picoler quand même. Est-ce que c'est
du vrai vin? On va boire, mais alors non, c'est malheureusement du jus de cassis. Malheureusement et heureusement, parce que c'est moi qui bois le plus dans la pièce.
Oui. Et vous trinquez beaucoup?
Oui, je trinque beaucoup, oui. Et Hortense, c'est donc, on en parlait tout à l'heure, cette femme qui aimerait tellement rencontrer l'amour et ça tarde un peu, donc elle a tendance à compenser un petit peu, puis avec cette grande timidité, à se détendre, une vino veritas, voilà, elle a besoin du vin pour l'aider à rencontrer Jacques, quoi.
Jacques, c'est Bernard Campan.
Bernard Campan,
c'est le caviste.
Oui.
C'est le caviste. Eh bien, entrons dans le...
On rentre dans...
Entrons dans le théâtre de la Renaissance.
Frédéric Taddeï, en balade avec Isabelle Carré sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, vous partez en balade avec Frédéric Taddeï et Isabelle Carré dans les rues de Paris.
Isabelle Carré nous sert de guide aujourd'hui pour visiter, enfin pour entrer. Nous visitons, vous allez travailler au...
Oui, visiter, ben j'étais en train de me dire, quand vous disiez visiter, j'aurais dû regarder sur Wikipédia l'histoire. L'histoire du théâtre de la Renaissance.
Il a été dirigé par Sarah Bernard.
Ça, je le savais.
Par Lucien Guitry.
Ça, je le savais pas.
Plus récemment, par Francis Lopez. C'était le prince de l'opérette, un tout autre genre.
Aujourd'hui, il est dirigé par deux jeunes
ouais.
qui sont fous de théâtre et qui, vraiment, on a beaucoup de chance parce qu'ils sont souvent là et ils aiment vraiment le théâtre. Ils en ont plusieurs, dont des théâtres aussi à Avignon. Je suis très heureuse ici dans ce théâtre-là.
Donc là, l'entrée, c'est un carrelage noir et blanc. On se croirait un peu sur un jeu de dames. Et ensuite, il y a un escalier rouge pour monter. Ben, je vous suis.
Il y a ça que j'adore.
Ah,
alors,
oui, c'est
j'aimerais tellement
maquette.
Avoir une vidéo. Là, on est à la radio pour vous montrer ça. J'aimerais tellement faire la collection si un jour je pouvais avoir une collection.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça dans les théâtres.
J'aime
à Paris.
Pas les objets, mais alors celui-là.
Ce sont des maquettes sous verre où on voit tous les fauteuils et on peut choisir le fauteuil qu'on voudrait réserver pour le soir même. Alors ensuite, vous allez où là?
Alors, moi, je passe pas par là. Moi, je passe jamais par là. Mais moi, je passe par l'entrée des artistes. Mais
ah oui. Alors, en fait,
alors on ressort.
Ouais, bien sûr, pour entrer par l'entrée des artistes.
On verra pas
évidemment.
Le joli escalier. Voilà, c'est juste de l'autre côté, en fait.
Jamais vous passez, vous ne côtoyez en fait le public.
Ben si, parce
de...
que souvent les gens reviennent par là en fait, remontent par là. Et puis nous on sort par ici aussi et souvent de temps en temps on se retrouve aussi avec des amis au bar du théâtre là-haut. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de rentrer par là et il y a beaucoup 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 d'escaliers au théâtre de la Renaissance parce que comme je vous le disais c'est un théâtre tout en hauteur. Donc bon courage à tous. Voilà.
Voilà, c'est toujours... Moi, j'aime bien les entrées des artistes, mais il faut bien reconnaître que c'est comme dans les vieux films, d'ailleurs, hein, c'est pas dans un luxe.
C'est pas dans un luxe inouï.
Mais il n'y a plus de gardiens.
Il n'y a plus de gardiens.
Il y a des digicodes maintenant.
Il y a des digicodes et il y a des escaliers.
Ça sent la cuisine.
Ça sent un peu toujours la cuisine, oui. Parce qu'il y a des restaurants tout à côté. Donc, alors là, je vais vous montrer, ça c'est réservé au personnel, normalement. Il y a un spectacle qui est en train de se jouer, je crois, donc on va parler doucement. Mais là, j'adore parce que c'est les dessous de la scène.
On est sous la scène.
On est sous la scène. Et je ne sais pas s'ils sont en train de jouer en ce moment ou pas. Mais là, on est sous la scène et vous voyez que c'est tenu avec plein de poteaux.
Et le théâtre, toutes les cordes.
Voilà, on n'a pas le droit de dire corde hein, sur un plateau.
Ah oui,
ça porte malheur.
On n'est pas sur le plateau, là.
Donc maintenant, il faut offrir à boire à tout le monde. Ça, c'est le foyer. Et puis là, on va monter.
Il y a de la moquette pour pas que ça fasse de bruit.
D'habitude, on descend toujours pour arriver sur scène. Et dans ce théâtre-là, on monte. Et non, il n'y a pas de spectacle, là. Il n'y a pas de spectacle. On va pouvoir aller sur le plateau. Voilà. Attention aux marches. Là, c'est les coulisses, là où on attend nos entrées en scène. Moi, mes entrées se font souvent là, sur ces escaliers-là.
Par l'arrière.
Et après, on peut faire une entrée, voilà.
Et là, on pénètre sur la scène.
Voilà, c'est par là que je fais mes entrées, par cette petite porte qui ouvre sur la cave de Jacques.
Avec un tonneau. Bien entendu.
Où a lieu la scène de la dégustation, qui est ma scène préférée. Je suis toujours très, 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 très impatiente de la jouer, très excitée de la jouer, parce que je ne suis pas tellement habituée à ça, à entendre autant de salves de rire, en fait. Et c'est vraiment...
Il paraît que vous en avez rajouté beaucoup, d'ailleurs. C'est vous qui avez créé...
J'ai rajouté quelques phrases, en fait, avec l'idée, enfin, avec l'autorisation d'Yvan, bien sûr, mais l'idée que tout ce que dit Hortense, à un moment donné, ne parle que de son désir, en fait, de faire l'amour avec Jacques. Mais elle n'en a pas vraiment conscience. Donc, tout ça le sort d'elle. C'est comme des lapsus, quoi.
Mais je trouve toujours ça joli de voir un théâtre vide depuis la scène. Là, tous ces fauteuils rouges.
Bah, c'est magnifique.
Qui attendent d'être remplis. Et par chance, vous savez qu'ils seront remplis. Parce qu'il y a aussi ça, il y a cette petite angoisse.
Là, on n'en a pas, effectivement. Et ça, c'est une grande joie. Et on n'est vraiment pas blasé de voir que depuis le début de l'exploitation, ça a pris. On ne sait pas pourquoi, mais ça a pris. Enfin, peut-être si, parce que les gens ont envie de... Peut-être de rire, mais de rire d'un rire qui n'est pas cynique, en fait. Qui est pas, on peut rire de bon cœur dans cette pièce.
Eh bien, il y a un autre spectacle qui joue, celui que vous pensiez qui était
Oui, je pensais que c'était en train de jouer En attendant Bojangles, qui est un livre que j'avais adoré. Je n'ai pas pu encore aller
voir mes camarades. Moi, c'est la chanson que j'adore, Mr. Bojangles. Ben, ouais. Alors, tout le monde la connaît dans la version de Nina Simone, mais moi, je préfère celle de Sammy Davis Jr.
Ah, je l'écouterai.
Vous n'aurez pas besoin d'attendre. Vous allez l'écouter tout de suite.
Ah, ben chouette.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high. Jump so high, and then he lightly touched down. I met him in a cell in New Orleans. I was, well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick right across the cell,
He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how his dog and he, they just traveled about. But his dog up and died. Dog up and died. And after 20 years he still grieved. He said, I dance now at every chance in honky-tonks, for my drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Come back and dance. 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 Please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Dance.
C'était Mr. Bojangles, chanté par Sammy Davis Jr. Petit clin d'œil à la pièce En attendant Bojangles, qui se joue ici même avant la dégustation tous les soirs à 19h.
Frédéric Taddeï, en balade avec Isabelle Carré sur Europe 1.
C'est toujours dans le 10e arrondissement, au Théâtre de la Renaissance, que Frédéric Taddeï et Isabelle Carré continuent leur balade.
Et nous voilà en train de monter de nouveau des escaliers. On continue notre ascension vers les loges, en l'occurrence la loge d'Isabelle Carré.
Ben voilà, nous y c'est là.
Oh ben c'est tout simple.
Elle est toute petite, oui, toute c'est petite, ce que je vous disais tout à l'heure, gentil. Vous attendez pas un faste.
Ben, c'est quand même un grand théâtre et c'est vrai que les loges sont toujours modestes hein, en fait.
Oui, moi, de toute façon, ça ne me gêne pas parce que moi, j'y reste très peu dans ma loge. Je sais qu'il y a des acteurs, je me souviens de Robert Hirsch, que j'avais côtoyé au Théâtre de l'Œuvre
il y a deux ans. Il a vécu toute sa vie dans des loges.
Hein. Il restait dans la loge tout l'après-midi, quoi, à écouter de la musique, à répéter son texte. Moi, j'aime bien arriver plutôt au dernier moment. Et voilà, j'ai juste affiché un grand dessin de ma fille. Il y a une photo que j'aime bien avec... une flèche indiquant vers la scène.
Il y a quand même un gros cœur en velours.
Oui, c'est pas moi qui l'ai amené.
Qui pourrait appartenir au personnage
à Hortense,
que vous interprétez.
Ouais. Absolument. Et j'ai aussi une trottinette offerte le jour de la première par mon camarade Éric Viellard, parce que dans la pièce, il me propose de me ramener en trottinette.
Oui, et vous ne l'avez pas encore utilisée.
Je ne l'ai pas encore utilisée, non.
Pas de photos sur les miroirs.
Non.
Est-ce que vous avez des petites manies avant d'entrer en scène, Isabelle Carré?
Oui. J'ai un toc avec ce dessin.
Le dessin de votre fille?
Oui. Un gros toc.
Oui, vous ne pouvez pas dire lequel.
Ah si, je peux vous dire, je fais ça en fait. Mais il faut que vous le décriviez, parce que moi je le ferai.
Ah oui, oui. D'accord, vous faites un petit baiser avec la main et, vous pouvez, et vos doigts viennent toucher tous les personnages, y compris les étoiles.
Voilà, mais il y a un ordre et tout ça, il faut le respecter.
Ah oui, d'accord.
Et là, les gens qui pensaient que j'étais une personne parfaitement équilibrée sont en train de se rendre compte que non, pas du
mais
tout.
Mais nous, on a l'habitude qu'avant d'entrer sur scène, on puisse avoir des petites
manies. Et l'autre toc, c'est quoi? Non, boire du jus de citron, ça j'aime bien. Avoir des pastilles,
ça, c'est bon
pour la gorge
voix.
Aussi, voilà. Ouais. Me laver tout le temps les mains, mais ça, c'est un toc qui me poursuit dans la vie. Écouter de la musique.
Ah, quand même.
Ouais.
Quoi ?
Écouter de la musique. Alors, j'ai une petite playlist. J'aime beaucoup écouter Nina Simone, on en parlait tout à l'heure, parce que dans la pièce, il y a une de mes chansons préférées de Nina Simone, Wild is the Wind. Et donc, du coup, je me suis fait une playlist avec toutes les versions possibles et imaginables de Wild is the Wind.
Ah, il y en a
notamment
pas tant que ça, hein.
Celle de Bowie, que j'aime beaucoup. Ah, j'en ai quelques-unes, quand même.
Ouais.
Alors, attendez, je vais vous dire. Alors, il y a la version que j'aime beaucoup de Rosemary Stanley, que je vous recommande. Il y a une autre version que j'adore de Jono McCleary, qui est magnifique. Et puis, il y a beaucoup de versions de Nina Simone en live à New York et dans plein d'endroits. Et ma préférée, d'ailleurs, n'est pas celle, malheureusement, qui passe sur scène. Ma préférée est le live de New York.
Love me, love me, love me. Say you do. Let me fly away with you, for my love is like the wind. And wild as a wind.
J'aime beaucoup Nina Simone, j'aime beaucoup le jazz et je peux pas vivre sans musique. La musique m'accompagne mais toute la journée, quand j'écris aussi, quand je joue.
C'est de la musique d'ameublement, quoi.
Non, c'est de la musique. Ah, pas du tout. Ah non, au secours.
Je savais bien que j'allais
non,
vous
c'était.
Froisser.
Oui, voilà. Non, c'est de la musique qui me met dans. Je sais pas, c'est comme de monter des petites marches, les petites marches qui vous manquent pour arriver à l'endroit où vous voulez.
Là, toutes celles qu'on vient de monter, là, pour arriver jusqu'à votre loge, par exemple, sans musique.
Je sais que rentrer sur un plateau, normalement, c'est d'être au même niveau que dans la vie. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas être en haut d'une chaire et dire la messe.
Il faut être naturel.
Il faut être naturel, voilà. Ouais. Mais en même temps, quand même, il y a une énergie à trouver, à donner. Et
il ne faut pas être trop naturel non plus au théâtre. Dieu sait si au cinéma.
Il faut être puissant. Il faut avoir de la puissance,
voilà,
en fait.
Il faut sublimer
un
peu ce qu'on est en train de vivre, non ?
Oui, et en même temps, il faut garder quelque chose de très sincère, de très vrai.
Mais
c'est un peu bizarre.
On est sur les grands boulevards, c'est du théâtre de boulevard, comme on dit. Est-ce que vous le jouez boulevard ?
C'est boulevard, mais pas que. Et
non,
c'est
non.
Ça que j'aime beaucoup dans cette pièce. C'est-à-dire que, encore une fois, comme pour les personnages, Yvan Calberac part beaucoup sur des clichés. Et puis, petit à petit, tous ces clichés tombent,
mais
comme je disais tout à l'heure.
C'est ça, le théâtre de boulevard. On en a une mauvaise idée, mais en réalité, ça peut être très subtil.
Mais là, il y a raconter la fin. Oui, et puis il y a aussi, vers la seconde partie de la pièce, on verse dans l'émotion, une émotion d'abord discrète et qui monte. Et j'adore cette montée-là. En fait, moi, ce que j'aime, c'est les comédies un peu à la Capra, où on est à la fois... on rit beaucoup, mais en même temps, on est ému. J'aime bien ce mélange, en fait. Quand le rire, tout à coup, on ne s'y attend pas du tout et on a envie de pleurer.
Vous pleurez beaucoup, vous,
j'ai rappelé. Oui, moi, oui. Mais j'aime bien, ça purge. Le
ça
mot n'est pas joli.
Ben,
je pense que c'est l'histoire d'hyper-émotivité.
Donc, les émotifs anonymes avec,
complètement,
avec Poulvord,
oui, non.
Ce n'était pas un rôle de composition.
Pas du tout, non. Ce n'était pas du tout un rôle de composition. Et j'ai même été pour préparer le film... dans des réunions de vrais émotifs anonymes, sans dire que je préparais pour le film, donc j'en nourrissais une culpabilité épouvantable. Mais en même temps...
Ils vous ont très bien su, parce qu'ils ont...
Ils m'ont très bien su, et je me suis dit, mais bon sang, mais j'ai ma place là, quoi. Et ça m'a un peu fait flipper. Et puis, même à un certain moment, je rentrais.
Rougissement facile.
Oui.
Vous êtes une actrice qui rougit très facilement, j'imagine.
Après les baisers. Ouais. Je sais. Ben ouais. Bah, je ne sais pas pourquoi, même si on le fait 10 fois de suite. Voilà. Mais dans la vie aussi, et ça, c'est moins sympa. C'est pas bien vu, quoi. Et c'est ça que j'ai aimé, d'ailleurs, dans le film. C'est l'autorisation à ne pas être parfait, à ne pas être performant, à ne pas avoir un super sens de la répartie tout le temps, à être maladroit et à se dire que peut-être, éventuellement, le charme pourrait venir aussi de ça.
Ça, c'était juste dans le film, les émotions.
De ces maladresses.
Anonymes. Je me dis que dans la vie, auraient eu autant de succès.
Eh bien, je veux le croire, parce que je me dis que si le film a eu autant de succès aussi, c'est que ça fait du bien aux gens et qu'il y a peut-être une vérité là-dessous. Peut-être que oui, nos singularités, nos maladresses, nos côtés un peu à côté de la plaque, c'est pas si pire.
Eh bien, on va vous laisser vous préparer pour la pièce. Isabelle Carré, merci de nous avoir emmené en balade avec vous.
C'était chouette.
On va remercier le Musée des Arts Décoratifs, le Secours Populaire, l'Hôtel Providence et maintenant le Théâtre de la Renaissance. Je rappelle que vous y interprétez La Dégustation, une pièce d'Yvan Kelberac, mise en scène par Yvan Kelberac, avec votre camarade Bernard Campan et
Olivier Clavry, Mounir Amamra et Éric Viellard.
Je vous souhaite une très bonne représentation. Je souhaite à tout le monde un très bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à 11h.
Merci.
À dimanche prochain, Frédéric. Comme à chaque fois, on peut réécouter cette balade sur europe1.fr. Et puis surtout, restez avec nous. Dans quelques instants, ce sera votre journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle. Et je vous rappelle qu'à 15h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet et l'acteur André Dussolier pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Très bon dimanche, il est midi 27 sur Europe 1.